Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, c'est Adrien, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. On continue notre jeu des chaises musicales pour nos previews NBA en 75 questions cette année, puisque donc je reprends le fauteuil de présentateur pour que votre éminence, celui qui échange directement par mail avec la NBA, puisse répondre sans se soucier du timing du jour. On parle bien sûr de Ben. Comment ça va, Ben?
Tu dis comment ça va, une éminence? Franchement, ça m'étonne. Ça va très très bien, Adrien. C'est sportif en ce moment, mais ça va très bien.
Oui, il y a deux registres de politesse, mais pour une introduction en bonne et due forme. Et notre troisième intervenant du jour, lui, il ne bouge pas de son poste. Il est bien installé à la tourelle de char d'assaut de Dunk Hebdo, qui d'autre que Madiane. Comment tu vas, Madiane?
Eh ben, tourelle de char d'assaut, conférences, découpée des franchises, ça me paraît être un bon petit programme.
Effectivement, changement de conférence aujourd'hui, puisque on a maintenant fait le tour de la conférence Ouest. Place à la conférence plus clémente pour ceux qui se couchent après les matchs depuis l'Europe, depuis la France. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, le rappel traditionnel, bien sûr, n'hésitez pas à nous retrouver sur toutes vos plateformes de podcast préférées, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Twitter principalement, et surtout, la nouveauté de cette saison, Dunk Hebdo, qui est donc partenaire de la NBA, du NBA League Pass. Vous pouvez retrouver le lien sur nos réseaux sociaux, dans la description sur YouTube, pour vous abonner donc via Dunk Hebdo et montrer à la NBA qu'en France, on est quand même quelques-uns à sacrifier de notre sommeil pour voir des grands Kings Magic, ou encore les joutes pour les playoffs de la conférence Est, dont on va probablement parler aujourd'hui. Mais avant d'en parler, autre tradition, celle de la pause. Et on se retrouve donc dans un instant pour attaquer cette preview de la conférence Est pour la saison NBA 2021-2022. Alors messieurs, on ne change pas la formule. Pour faire le tour de la conférence Est cette année, on commence en bas de l'alphabet. Et sans plus tarder, donc avec nos amis de DC, les Washington Wizards. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous donner la parole. Et je vais commencer par toi, Ben, avec une question très simple. Est-ce qu'il est temps, du côté de Washington, de tirer un trait, de tourner la page du chapitre Bradley Beal, plutôt qu'encore reconstruire une nouvelle fois autour de lui ce qui a l'air d'être le projet pour le moment?
Je me demande si c'est pas plus une question pour Bradley Beal que les Wizards. On le sait, ils sont, je pense, plus dépendants de la volonté de Bradley Beal. Ils n'ont pas tellement, je pense, la liberté de lui imposer certaines choses. On le sait, on a quelques exemples. Même en ce moment, les superstars NBA ont beaucoup de pouvoir, certains diraient trop, ils ont beaucoup de pouvoir, donc quand tu as un joueur qu'on classe nous par exemple dans le DH20, dans les 20 meilleurs joueurs de la NBA, tu ne peux pas vraiment l'écarter ou en tout cas le forcer à demander son trade parce que ça serait se tirer une balle dans le pied pour la suite. Je pense que pour les Wizards, l'objectif c'est plutôt de savoir si Bradley Beal va s'inscrire dans le futur ou pas. Il est en fin de contrat. À la fin de la saison, il a une option en 2022-2023. La question, c'est plutôt de savoir est-ce qu'il va activer son option et est-ce qu'on peut compter sur lui dans les prochaines années. Ça, il faut le clarifier, mais je pense que tu peux difficilement l'écarter. Et puis surtout, Bradley Beal, bah, ça fait bien longtemps qu'il aurait dû demander son trade, en fait. S'il veut vraiment être tradé, il y avait d'autres fenêtres d'opportunité, il ne s'est pas engouffré. Donc, je pense qu'il faut juste de la clarté pour la suite, pour les Wizards.
Madiane, est-ce qu'il n'est pas bon cet angle donné par Ben de la volonté de Beal? Est-ce que quand tu es dans la situation des Wizards, finalement, je reformule un petit peu la question, est-ce que tu peux vraiment te permettre de transférer justement un joueur qui est dans le top, alors 20 pour certains, allez, top 30, on fait large à peu près chez tout le monde de la NBA, est-ce que si tu le transfères à ce moment-là, t'en vois pas une mauvaise, tu donnes pas une mauvaise image de ton équipe? Est-ce que tu peux vraiment prendre cette décision maintenant?
C'est que finalement, l'impact sur l'image des Wizards que ça aura sera très négatif. Qu'est-ce que tu vas vraiment obtenir? On se souvient de trades en dernière année de certains joueurs que ce soit des Cousins, on va dire qu'on peut comparer un peu ces statuts-là, c'est-à-dire des joueurs dans des franchises qui gagnent pas forcément ou qui n'ont pas forcément une grande ambition ou un grand futur, où on est en dernière année, bah finalement c'est très difficile d'obtenir énormément de contreparties intéressantes dans ce cas-là. Donc entre les contreparties que tu pourrais obtenir, le coût que ça te donne, ça me paraît pas valoir le coup. Par contre, s'il te dit je veux partir, bah oui, là, clairement, bah, tu peux réussir à te mettre d'accord avec des franchises. Il y a du matériel, on l'abordera, mais le roster des Wizards n'est pas horrible, entre guillemets. Ils ont récupéré pas mal de bons joueurs de saison régulière. Et en fait, on n'est pas à l'abri de se retrouver avec des Wizards pas en si mauvaise posture. Donc clairement, il vaut mieux attendre le mot de Bradley Beal, partir avec cette saison-là. Je pense que le roster, en tout cas, ne justifie pas de dire c'est opération tanking, etc. Je trouve qu'il serait trop fort pour se lancer dans ce type d'opération.
Le roster sans Bradley Beal, tu veux dire, le serait trop fort?
Oui.
Oui. Moi, je trouve qu'il y a une espèce de paradoxe autour de Beal chez les Wizards. Le paradoxe entre la valeur de Bradley Beal, tu l'as dit toi-même, Madiane, si jamais publiquement Beal dit je veux être transféré, à peu près les Washington Wizards reçoivent des coups de fil des 29 autres équipes, environ, à quelque chose près. Donc, il a quand même une valeur très élevée autour de la Ligue, de par son niveau actuel, là où il en est. Et justement, cette possibilité de vraiment le transférer maintenant, eux, de leur côté. Et comme tu l'as dit, l'effectif, il n'est pas si mal, mais moi, ça me pose quand même un problème de temporalité autour de Bradley Beal, parce que j'entends cette volonté de rester, de saluer cette fidélité, etc. Mais est-ce que vraiment, là, quand tu es les Wizards, tu es capable de construire une équipe contender autour de Bradley Beal? Est-ce que tu en es encore là? Et j'ai l'impression qu'on est plutôt en train de passer à la génération d'après, à commencer à avoir des petites pièces sur des plus jeunes joueurs, même si ils ont quand même récupéré des joueurs avec quelques années derrière eux. Je pense à KCP, mais je ne pense pas que ce soit suffisant autour de Bradley Beal. Donc, c'est quelque chose de plutôt... Il y a un espèce de paradoxe. On est un peu coincé entre le cul entre deux chaises, comme on dit en bon français, du côté des Wizards. Ouais.
Puis, surtout par rapport à Bradley Beal, tu l'as dit, c'est le meilleur joueur NBA actuellement sur lequel il y a une interrogation. Tous les autres joueurs, regardez notre DH20, il n'y a pas d'interrogation. C'est le seul où il se pose cette question. Donc, en plus, tu pourrais avoir énormément de valeur. Je sais que j'en ai déjà parlé avec des auditeurs du podcast, sur Twitter, même en DM et tout. Peut-être que Bradley Beal ne rêve pas d'un destin champion, etc. Peut-être qu'il rêve, il a envie d'en mettre 30 par point, par match, dans une équipe, peut-être avec moins d'ambition collective. Et chacun ses envies, ses objectifs, mais pour moi, il l'aurait déjà demandé.
Ouais, probablement.
Et puis il y a des questions. Moi, je me pose la question de sa dernière prolongation, où prolongation avec un an de où il n'était plus tradable suite à cette prolongation. Pendant un an, il ne pouvait plus être tradé. Il a un trade kicker également sur son contrat. Moi, je me suis de plus en plus posé la question juste après cette prolongation, en me disant il n'a pas envie de partir. C'est la prolongation 2019, au moment où l'ère John Wall, on sait que c'est fini, qu'il y a un supermax désastreux qui est signé et que John Wall se pète, c'est le moment, il n'y avait pas mieux et il re-signe. Donc c'est bien possible que Bradley Beal ait bien envie de rester encore très longtemps dans cette équipe.
Oui, que ce soit pour des raisons basket, comme tu l'as sous-entendu, Ben, peut-être pour, je sais pas, marquer l'histoire des Wizards d'une certaine façon, ou ça le regarde, ou peut-être aussi des questions personnelles. C'est vrai qu'on en parle peu, mais bon, quand tu es installé depuis des années à Washington, peut-être qu'il y est très bien et qu'il n'a pas envie.
Surtout que Bradley Beal, il sort après une seule année. Donc, tu vois, il a fini de grandir là-bas. Donc,
il y a peut-être fallu. Mais partons donc du principe qu'a priori, donc Bradley Beal, on devrait le voir jusqu'au bout, en tout cas au moins cette saison. Et attaquons le sujet que tu as commencé à évoquer, Madiane. Celui de l'effectif autour de notre cher Bradley, effectif un peu remanié, notamment avec quelques arrivées. On peut citer des Montrezl Harrell, des Kuzma, des Caldwell Pope, des Spencer Dinwiddie. Et la question qu'on va se poser, c'est celle de l'aile, notamment du côté des Wizards, puisqu'a priori, le bas-court devrait être celui de Dinwiddie et Beal. Ça semble à peu près gravé dans le marbre. Qui on met à côté de ces deux-là, donc au poste de pivot, a priori, ce serait encore une nouvelle fois Daniel Gafford. C'est surtout les deux postes 3 et 4 qui posent question avec toute cette liste autour de Kyle Kuzma, de Bertans, d'Avdija, de Hachimura, qui n'est toujours pas là, donc pour différentes raisons, on va en parler, j'imagine. Qu'est-ce qu'on fait? Du coup, je vais commencer par toi, Madiane, cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on fait à l'aile du côté des Wizards? Avec qui on commence? Qui termine les matchs? Peut-être que ce serait différent.
Oui, il y a des choses différentes. Pour moi, Montrezl, c'est une sortie de banc parce qu'il est habitué à apporter son énergie, à aller boulier en milieu de premier quart-temps, début de deuxième, tous les bancs adverses. En plus, dans la conférence S, ça peut vraiment faire mal ce type de joueur. Moi, je pense qu'il faut absolument pas changer ce qui a fait sa force en saison régulière. Il faut le sortir du banc. Donc, pour moi, parmi cette liste, c'était le premier joueur gérayé. Ensuite, Kyle Kuzma, moi, je pense aussi que ce ne sera pas un titulaire pour des questions de fit avec Dinwiddie, Bill. En fait, je pense que j'ai besoin de profils un peu plus costauds défensivement sur les ailes. Et ça m'a pas l'air de bien fitter avec ça. Et donc, pour moi, ce sera écarté parce qu'il y a des questions d'équilibre et qu'il n'est pas assez fort offensivement. Et dans ce cas, là, derrière, il y a deux choix. C'est soit on est en full blast et dans ce cas, il faudrait aligner un Bertans. Mais par contre, bonjour les dégâts derrière, ça peut être un parti pris. Ou bien, selon le retour de Hachimura, est-ce qu'il peut jouer ou quoi? Pour moi, Hachimura, s'il peut jouer et s'il se sent bien dans sa tête pour jouer, je ne sais pas quels sont ses problèmes actuellement, pour moi, c'est le lock. Donc, moi, j'arrive à locker finalement qu'Hachimura s'il est dispo. Et après, KCP, ça fait vraiment trop petit pour moi. Et finalement, je pense que l'option qu'ils prendront, ce sera une option 100% offensive. Et du coup, il se peut que ça finisse en Hachimura Bertans finalement sur les ailes en acceptant de prendre la sauce défensivement.
Je crois que Madiane a posé la question. Qu'est-ce que tu fais, Ben, toi, du côté des Wizards? Tu veux marquer plus de points ou tu essaies d'équilibrer?
Je suis d'accord avec Hachimura. Moi, je laisse Kuzma. Kuzma, il a déjà commencé quelques matchs de pré-saison. Et puis surtout, si tu mets... en fait, il va se poser un problème. Si on parle pas du 5 de départ, mais des remplaçants. Sur le banc, t'as Thomas Bryan, qui a un bon intérieur, mais qui défend pas. Vraisemblablement, j'ai jamais réussi à dire. va probablement être sur le banc où il va essayer de porter la gonfle. Donc là, il y a une question qui se pose vis-à-vis du banc. Est-ce que tu rajoutes Bertans sur le banc pour te dire qu'en gros, ton banc va full attaque? Ou alors, est-ce que tu mets ce déséquilibre sur le 5 de départ? Je pars avec Kuzma. Je pars aussi du principe que Kuzma est celui qui a le plus de valeur potentiellement en trade. Tom aime bien le dire, c'est un roster à trade. Oui. Donc Kuzma, Hachimura, Gafford, Bill, Dimini.
Par contre, moi, je me pose beaucoup de questions autour de KCP. Parce que je vois difficilement... Enfin, oui, il aura un apport, évidemment. C'est un joueur d'expérience. J'ai du mal à le voir finir la saison là-bas. Je sais pas pourquoi, mais quand je lis le roster, je me dis qu'il peut partir. KCP, il me titille pas mal parce que je trouve que ce sera un joueur assez intéressant pour un contender, pour qu'il y ait un trade qui part. Mais après, faut voir parce que les gros contenders de cette année sont tellement bloqués que ce sera pas forcément possible, donc il faudra attendre le développement de la saison. Mais moi, je trouve que KCP sera pas exploité au potentiel maximum qu'il pourrait avoir dans un effectif, et du coup ça le rend très facilement échangeable.
Ah, je suis globalement d'accord avec ce que vous avez dit, notamment sur le lock Hachimura quand il pourra jouer. Il y a juste une chose, moi, qui me pose question dans cet effectif, c'est celui du partage de la balle. T'as beaucoup de joueurs qui aiment beaucoup avoir le ballon. Donc Dinwiddie, Bill, Kuzma aussi dans une certaine mesure, Avdija en second créateur, mais quand même Montrezl quand il va être sur le terrain, et du coup effectivement des profils comme KCP ou Hachimura, bon, Daniel Gafford en pivot de fin de chaîne quand même ont une certaine valeur. La question, c'est qu'est-ce que tu veux faire du côté des Wizards? Quelle est ton ambition autour de Bradley Bill? On rejoint un peu la question précédente sur est-ce que à mi-saison ou au tiers de la saison, les Wizards se disent on peut faire un run pour le play-in. Ou est-ce que, bon, bah, comme vous l'avez dit, on est un roster à trade et c'est le moment d'aller voir les contenders avec quelques joueurs qui ont une certaine valeur en leur disant, bah, écoutez, vous pouvez récupérer ça si vous voulez contre des assets pour le futur. Mais... Pour moi, c'est là toute la question autour de l'effectif des Wizards.
Mais en tout cas, ils ont des options intéressantes. Mais c'est... Moi, j'avoue qu'à chaque fois que je les regarde, j'ai du mal à bien comprendre comment ça pourra s'emboîter dans la rotation. Parce que, notamment sur le banc, si tu gardes Thomas Bryant, ben, du coup, derrière... Sur tes ailes, tu mets Harrell avec Bertans. C'est bizarre. En fait, à chaque fois que je fais des combinaisons, je regarde et je me dis, ça ne matche pas ensemble, mais je ne sais pas quoi faire. Donc c'est un roster. Enfin, en tout cas, sur les ailes, ils ont des profils atypiques. Et en fait, ils n'ont pas vraiment de gros profils défensifs. Et on sait que c'est très prisé dans la ligue. Ce n'est pas étonnant qu'ils n'en aient pas, du coup. Mais ça va leur porter préjudice. Et donc, je pense que la meilleure option pour eux, c'est effectivement de partir 100% sur l'offensive, comme ils l'ont fait finalement l'an dernier, en se disant, on n'a pas le matériel pour aller stopper les gars en phase, donc on va essayer de planter plus de points.
Eh bien, la parole est à Wes Unseld Jr. pour trouver les bonnes combinaisons dans cet effectif des Wizards. Je pense qu'il y a... On a à peu près fait le tour de cette question et puis on a d'autres équipes à évoquer. Donc on va enchaîner et on va changer de pays puisque ça y est, les Raptors vont pouvoir rentrer à la maison, fini la Floride. Retour du côté de Toronto pour ces Raptors. Les Raptors qui sont aussi dans une drôle de période où on se pose cette question. La première question que je vais te poser à toi Ben, on va continuer d'alterner. Encore une fois, ça ressemble aux questions posées pour les Wizards. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reconstruit ? Est-ce qu'on a encore confiance en nos jeunes joueurs qu'on a essayé de mettre en avant post-titre, en Siakam, en Van Vliet, en OG Anunoby ? Qu'est-ce qu'on fait à Toronto ?
Je ne pense pas à Toronto qu'on soit arrivé au moment où il faut tout exploser. D'abord parce que les joueurs que tu as cités, les Siakam, les Van Vliet, les OG Anunoby...
Gary Trent aussi, d'ailleurs.
Gary Trent également... Tous ces joueurs que tu as cités sont minimum en contrat jusqu'à 2023-2024. Donc, c'est pas le moment de les lâcher. Tu l'as dit, l'année dernière, ils ont joué à Tampa Bay. On sait que il y a quand même un côté culturel du côté de Toronto avec un avantage du terrain qui est réel, une faculté à jouer à domicile qui est réelle. Et puis là, franchement, passer, Tom aime bien insister. Je fais que citer Tom. aime bien insister sur, les joueurs parlent souvent dans leurs émissions, des habitudes, et j'imagine que quand tu changes de pays, quand tu es dans une autre ville, tes habitudes sont totalement chamboulées. Donc pour moi, la saison dernière, c'est un petit peu à mettre entre parenthèses. C'est une saison qui est aussi marquée par beaucoup de rumeurs autour de Kyle Lowry, qui était un monument de la franchise. Donc repartons sur des bases saines, avec maintenant que des joueurs du jeune groupe, hein, parce que Siakam c'est 27 ans, Van Vliet c'est 27 ans, 24 pour Odie, qui, vous l'avez vu sur la conversation Dunk Hebdo, j'annonce très très fort cette année, et 22 pour un Gary Trent. Donc tu as certes Goran Dragic, mais pour moi, c'est le moment d'évaluer ce que tu as dans ton effectif, et tu prends les décisions l'année prochaine.
Est-ce qu'on en est là aussi, Madiane, c'est finalement cette année, l'année d'évaluation, l'année dernière, comme l'a dit Ben. C'était la dernière année, le jubilé Kyle Lowry, avec un contexte un peu particulier. Est-ce que c'est vraiment cette année qu'on va évaluer quels joueurs on va garder, ceux qui s'inscrivent dans notre projet à moyen terme ?
Tout à fait. Non, clairement, pour moi, ça va être le cas. Il va falloir bien surveiller comment ça se passe cette année. Et on n'est pas à l'abri d'avoir une très bonne surprise chez les Raptors, parce que l'an dernier, c'était compliqué. Quand tu regardes le roster... en fait, il est extrêmement cohérent et dans la conférence S, ça gagne des matchs. Hein. Un roster cohérent avec un très bon niveau plancher comme ils ont, clairement, ça peut gagner des matchs. Moi, par exemple, qui suis un grand fan avec Tom de Chris Boucher, typiquement, c'est la dernière année de son contrat. Je suis pas sûr qu'ils vont le payer ensuite, mais... clairement, il a montré des choses plutôt intéressantes à mes yeux ces deux dernières saisons. On a le statut de Pascal Siakam, débarrassé de Kyle Lowry. Qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que c'est vraiment le futur de cette franchise ? Ou est-ce que finalement...
Est-ce qu'on se pose encore cette question ? Je suis désolé, je me prends
pas oui, représentateur. On se pose cette question parce que finalement, la saison dernière a été finalement pas si réussie pour lui. À titre individuel, et du coup maintenant le débat est de nouveau ouvert, en tout cas à mes yeux, c'est-à-dire que moi je vais regarder et scruter les performances de Pascal Siakam parce que il m'a parfois inquiété l'an passé sur certaines de ses prestations. Donc oui, le dossier se réouvre, notamment parce que il n'y a plus Kyle Lowry. Mais avec des vétérans, avec autant de qualité, etc., il n'est clairement pas exclu que cette équipe fasse une très bonne saison. Et la question des contrats, comme dit, à part Dragic et Boucher, il y a quasiment rien parmi les joueurs majeurs qui expirent cette année, donc c'est pas non plus le bon timing.
Et puis on parlait de l'équilibre un peu précaire du côté des Wizards. Je trouve que du côté des Raptors, il y a plusieurs rotations qui sont intéressantes. Il y a aussi ce fameux rookie Scottie Barnes que beaucoup de gens veulent voir. Moi, j'ai trouvé Precious Achiuwa assez intéressant sur les premiers matchs de pré-saison là, et qui peut justement se faire une place dans cette rotation intérieure aussi. Il y a plein de combinaisons plutôt sympathiques à faire avec 8-9 joueurs peut-être. Donc y aura de quoi faire du côté de Toronto. L'heure n'est pas encore aux conclusions dès cette année. On verra, je pense, à la fin de l'exercice 2021-2022. Mais du coup, on va poser l'autre question que tu as évoquée très rapidement, Ben. Effectivement, Toronto retourne à Toronto, quitte Tampa Bay. Et on sait que ça fait partie des équipes un peu plus loin, du coup, de par leur situation géographique, mais qui ont un vrai avantage à domicile comparé à d'autres. En plus, là, il y a une situation particulière qui fait que certaines équipes avec des joueurs non vaccinés vont se retrouver assez amputées une fois qu'ils vont jouer à Toronto. Est-ce que ça aussi, ça peut aider cette question d'habitude que tu as évoquée rapidement, aider les joueurs tout simplement de cet effectif des Raptors ?
Effectivement, pour moi, ça va être un vrai boost pour eux. Je l'ai déjà un peu dit, j'ai un peu grillé cette question sans le faire exprès. Effectivement, ça va être un vrai boost pour une jeune équipe, une équipe qui avait aussi besoin de repères. Quand tu mets bout à bout la bulle et le passage Tampa Bay, ça va, pour des jeunes joueurs comme ça, ça va faire 2 ans pratiquement qu'ils n'ont pas joué vraiment dans leur salle, donc ça va être extrêmement précieux. Et à côté de chez eux, tu vois, te sentir vraiment chez toi, toutes les habitudes dont je parlais, donc non. Puis c'est aussi pour ça que tu traites pas ce roster-là, parce que tu as envie de voir dans une année entre guillemets normale, même si, comme tu l'as dit, encore ces questions de vaccination qui vont se poser pour certaines équipes, tu gardes l'effectif comme il est, et puis ces joueurs-là, ils ont trop des profils intéressants pour des contenders, donc ne les bouge pas maintenant, attends d'être sûr de ne pas pouvoir les exploiter.
Bon, rapidement, je me dirais que tu n'as pas grand-chose à ajouter, Madiane, mais rapidement, toi aussi, tu partages cet avis ou pas ?
Oui, je le partage à 100%, et c'est ce qu'il faut se dire, c'est que le niveau qu'ils ont affiché l'an dernier est bien loin des qualités du roster qu'on trouve. Mine de rien, je regardais, mais il y a vraiment matière à faire. Et en tout cas, ils sont pas très haut, très très haut dans le top du top des talents, mais il y a des joueurs titulaires solides et des joueurs de rotation très solides partout en fait. Et en fait, ça te donne un niveau. Ils vont prendre beaucoup de matchs. Comme dit, c'est exactement ce qui a permis au Magic d'aller en playoff pendant 2 saisons. C'est que, ok, ils n'allaient pas très haut, mais tous les matchs où ils devaient taper une équipe, ils l'ont tapé facilement. Donc moi j'ai plutôt confiance pour eux cette année, et en plus avec le retour à Toronto, l'ambiance sera vraiment vraiment excellente.
Seul point négatif, la division, elle est dure, c'est tout.
C'est vrai, mais de toute façon on tirera les conclusions du coup à la fin de cette
le
saison
reste de la
du côté des Raptors.
Facile.
On va y venir au reste de la conférence. On va continuer, Madiane, justement avec une équipe heureuse, j'ai envie de dire. En tout cas, qu'un certain Ilias du podcast Dunkin'Do était très heureux à l'issue de la loterie de cette année. On parle bien sûr des Détroit Pistons qui, ça y est, mettent tous leurs espoirs sur les épaules d'un certain rookie, Cade Cunningham, donc numéro 1 de la draft. Mais il y a d'autres choses dans cet effectif. Il n'y a pas que ce cher Cade Cunningham sur qui beaucoup de gens ont quelques certitudes. On verra, on va pouvoir profiter de tout ça cette saison. Mais la première question qu'on se pose, et je vais te la poser à toi, Madiane, cette fois-ci, on continue d'alterner. Elle est signée de Tom, évidemment, je suis obligé de le citer, puisque c'est une question autour de ce cher Isaiah Stewart.
Et qui peut poser cette question à part Tom ?
C'est pour ça, j'étais obligé de le dire. Est-ce qu'Isaiah Stewart, donc Tom, Madiane, du coup, peut-il s'imposer donc comme un pivot, le pivot du futur pour cette saison ?
Le pivot du futur, quel futur ? Parce que... Moi, en tout cas, je suis pas un amateur de et un hipster au point de regarder tous les matchs où joue Isaiah Stewart, mais En tout cas, de ce que j'en sais, moi, j'avais noté et j'avais vu que globalement, c'était l'accord dessus, c'est qu'on lui reprochait beaucoup sa capacité à aller chercher des extérieurs. Donc pour moi, quand tu me parles d'un pivot, que tu me dis le futur et qu'il y a une difficulté à switcher, ça me paraît dur. Il peut réussir des choses. Après, il faut rappeler ses qualités. Physiquement, c'est très lourd. Il a une très bonne énergie.
Il est pas grand. Il fait 2 mètres.
Il a un avantage, c'est que il est pas non doué sur les finitions et donc il peut finir pas mal d'actions. Maintenant, c'est un potentiel de développement et oui, ça fait le job. Mais je vais pas mettre mon argent dessus ou me dire je vais bâtir autour de lui parce que ça reste malheureusement inhérent à son poste. Son poste n'est pas là où je vais me focaliser. Donc que ce soit lui ou un vétéran au minimum, finalement, est-ce que j'aurai une plus-value qui justifie un gros investissement dans le futur en disant on compte sur toi, etc. Ça reste utile, ça reste un joueur qui est intéressant. Mais de là à se dire, est-ce que c'est le futur de la franchise à ce poste? Non, ça peut s'interchanger clairement et malgré le fait qu'il fasse de bonnes choses. Hein, mais c'est pas avec ce qu'il apporte, il apporte pas un truc rare que j'ai pas ailleurs ou que je peux pas trouver facilement pour pas cher.
Après, c'est un pivot qui a 20 ans, on le rappelle, donc il y a encore de quoi faire.
Je suis dur, mais c'est pour moi, c'est la réalité du poste.
Je vais tordre la question justement.
Je dis que son poste n'est pas adapté à ça.
Ouais, non, mais je vais tordre la question justement pour te redonner la parole, Ben. On emploie souvent ce terme de pivot du futur et on les voit, les pivots, pendant les intersaisons, nous poster des grandes vidéos à base de on met des crosses et des step back et on prépare notre shoot extérieur. Est-ce que c'est pas ça le piège justement, c'est de chercher ce pivot du futur et de trop essayer de les formater jeunes? Dans un rôle qui n'est pas le leur, qui ne maximise pas à la base leur capacité première, et peut-être d'en griller certains. Est-ce que ce n'est pas un piège, cette question, finalement?
Tu as lu dans mes pensées. C'est l'exemple classique. Et Isaiah Stewart rentre dans cette problématique-là. Isaiah Stewart, sur les 8 derniers matchs de la saison régulière, prend 32 tirs à 3 points. Et il y a, dans ces tirs à 3 points, les briques les plus solides que j'ai dû voir de ma vie. C'est une catastrophe et il cherche à développer une compétence qu'il n'a pas. C'est là où je suis pas vraiment d'accord avec Madiane, c'est que d'abord, on va pas revenir sur le truc du pivot vétéran au minimum qui est totalement fantasmé, et on va... Des pivots qui sont capables de switcher à un haut niveau, ça c'est une considération que tu te poses quand tu joues très très fort. Les Pistons viennent d'avoir le premier choix de la draft. Qu'ils aient déjà... un joueur qui a été dans la second all rookie team l'année dernière, qui est dans l'énergie, qui peut poser des écrans, certes un peu petit, solide à la finition, et qui essaye, même si moi je trouve parfois un peu trop, de développer ce tir, c'est parfait. Ils ont Cade Cunningham, ils ont Jeremy Grant, ils ont Killian Hayes aussi, en qui il y a beaucoup d'espoir. Ils n'ont pas besoin d'avoir une espèce de monstre au poste de pivot, ils ont besoin d'un rim runner, et il le fait. On n'est pas au stade de la reconstruction où Isaiah Stewart, ça doit être un monstre. Il a juste à être un bon titulaire. Il a fait une bonne saison rookie, qui continue, qui limite un peu les tirs extérieurs. Je crois qu'il l'a fait sur la pré-saison. Et c'est, enfin, moi, du futur, je ne sais pas, mais ça peut être le pivot titulaire des Pistons dans 2 ans.
Dans 2 ans, j'ai une question du coup. À la fin du contrat rookie, il toque à ta porte, il te demande de l'argent. T'as CAD, t'as tout le reste qui se développe. Tu lui donnes de l'argent?
S'il m'a prouvé qu'il pouvait fitter avec eux, oui, je lui donne de l'argent, en fait. S'il a en plus un peu développé ce petit shoot-là, oui, mais encore, il a joué qu'une saison, hein, les gars, non, face au contrat rookie.
Quand on parle de futur, c'est ça, c'est que moi, je ne mets pas mes jetons dessus parce que je me dis, est-ce que je vais vraiment, vraiment le payer à la fin?
Ouais, mais
j'en suis pas sûr.
Mis à part joueur générationnel, tu ne sais jamais après une année.
Non, évidemment, mais quand même, c'est peu probable. C'est peu probable qu'il atteigne un...
Je te trouve sûr.
Mais oui, je suis dur. Mais en fait, pour moi, je trouve que les compétences que j'attendrais de lui dans un scénario où ça se développe favorablement pour les Pistons, je pense pouvoir les trouver ailleurs. Et du coup, j'ai pas trop envie d'investir dessus. C'est ça mon idée. Je peux être très dur. Mais en soi, j'ai pas l'impression de dire une énormité en disant les compétences de base du pivot que tu me cites, c'est pas celles-là qui sont ultra rares et c'est pas celles-là qui vont justifier un gros paiement sur un joueur. Je comprends l'idée de c'est dur et il fait des bonnes choses, il fait de très bonnes choses, mais...
Ah bah c'est là où on a un peu de désaccord. Je vais être dans le camp de Ben, on va se retrouver à 2-1, mais quand même, les compétences de base que tu cites, la capacité justement à se projeter vite et à switcher sur les extérieurs, actuellement, mais... si ton meilleur joueur, ça doit être un grand porteur de balle et joueur de pick and roll distributeur comme nous a annoncé Cade Cunningham, t'en as pas des millions, hein, des pivots comme ça. Alors après, la question de l'argent, c'est que toi, tu vois tout de suite, est-ce que tu le payes, est-ce que, enfin, t'as l'air de sous-entendre, est-ce que tu le payes des millions et des millions et un max?
Non, mais
probablement pas.
Tu surestimes certaines de ses capacités quand même. Il va pas switcher. Hein.
Non, mais il va faire un travail
basique de pivot, mais
défensivement. Il fait 2 mètres, il peut switcher. Ce que je dis pas que tu vas baser tout ton système défensif sur des choses. On est rentré dans un débat sur les Isaiah Stewart.
Il a joué une saison.
Non, mais évidemment, je suis très dur, mais il y est pas encore. Si tu
cite-moi un pivot qui peut switcher.
De quoi?
Cite-moi un pivot NBA qui peut switcher comme ça à ce point-là.
Ils sont tous All-Star,
ouais,
en fait.
On parle du niveau de Adebayo, on parle d'un niveau extrêmement élevé. C'est pour ça que je dis que ça peut justifier dans le cas de Bam Adebayo de balancer pas mal de sous. Le moteur de DeAndre Ayton, c'est quelque chose. Et encore, même les Suns, finalement, rechignent un peu dessus. Même eux, sur un joueur comme Ayton, ils ont du mal à aligner la caillasse.
Ouais, mais Ayton, c'est parce qu'on sait que en gros, l'agent est venu, il a demandé le max, ils disent pas non. Là, on parle d'un rookie qui peut-être, on voudrait peut-être le voir comme... Enfin, moi, c'est le pivot du futur.
C'est effectivement un titulaire, mais s'il est là encore dans 5 ans chez eux, je serai très content pour lui.
Mais, très bien, ça fera la conclusion, étonné. Parce qu'on va pas faire un débat de 3 quarts d'heure sur les
mais on y arrive, c'est ça qui est dingue.
Mais du coup, voilà, je présente mes excuses à Tom parce qu'on s'est un peu moqué de cette question autour d'Isaiah Stewart, mais preuve en est qu'elle est intéressante, qu'elle n'est pas inintéressante du côté des Pistons.
C'est très triste pour nous, ce qu'on arrive à s'écharper sur Isaiah Stewart.
Bref. Et en tout cas, mais c'est une bonne nouvelle pour les supporters des Pistons, ça veut dire qu'il n'y a pas que Cade Cunningham à regarder cette saison. Et rapidement, on avait une deuxième question, on va quand même la poser. On va essayer de faire plus court. Jeremy Grant, est-ce que c'est un Pistons à la fin de l'exercice 2021-2022?
Alors, il lui reste 2 ans de contrat. Je pense qu'il n'ira pas au bout de son contrat. Il a trop de valeur et l'effectif n'a pas des grandes ambitions. La question, c'est est-ce que cette année, il sortira? Je pense vraiment que ça dépendra du niveau affiché par les jeunes, notamment Cade Cunningham. Peut-être pas. Il finit pas son contrat sûr. Est-ce qu'il vous l'échanger à la trade deadline de 2023? Probablement. Mais il a montré trop de choses. À voir aussi s'il va vouloir, parce que je rappelle que c'est un joueur qui a souhaité avoir un rôle plus important. Est-ce qu'il sera prêt à être tradé pour un rôle un peu moins important? Mais je dirais non, mais il lui restera que 6 mois après.
Adiane, est-ce que tu vois les contenders probablement aller chercher Jeremy Grant, parce que c'est sûrement le...
Je partage l'avis de Ben, et je pense que la chasse ne sera pas assez intense pour justifier un tel move sans une demande express du joueur. Ça, c'est pareil, c'est qu'est-ce que tu peux obtenir à travers ça, et je suis pas sûr que tout le monde soit prêt à mettre des paquets de billets dessus. On voit bien que tout le monde parle plus de Bill, même si l'utilité des Jeremy Grant, à mon avis, pourrait faire du bien à pas mal de monde, mais son contrat fait que ben ça fit pas forcément. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de très fortes chances qu'on ne le voit pas jouer les 20 derniers matchs de la saison avec un maillot des Pistons, qu'il soit tradé ou non.
Oui, probablement, parce que c'est ça. Moi, c'est la question qui me pose aussi, c'est que Jeremy Grant, qui voulait du coup un autre rôle, qu'il a eu, qui a montré qu'il était capable d'être très bon. Bon, là, cette année, en plus, tu l'as dit, Ben, en plus de Killian Hayes, qui est un porteur de balle, tu as Cade Cunningham qui est arrivé, qui a priori devrait concentrer l'attaque des Pistons. Alors, peut-être pas au point de faire un héliocentrisme total dès la saison 1, mais quand même, on a l'air de se diriger vers ce profil de joueur-là. Donc finalement, est-ce que Jeremy Grant ne se retrouverait pas une nouvelle fois en situation qui ne lui plaît pas non plus, qui ne correspond pas au projet de jeu des Pistons? À partir de là, ils pourraient se séparer tous les deux d'un commun accord. La question, c'est cette année, à quel moment On verra bien, réponse en cours de saison. Mais on a fait déjà assez long sur les Pistons grâce à Isaiah Stewart qu'on salue une nouvelle fois. Donc on va enchaîner sur l'équipe d'après. Une équipe habituée du milieu de tableau de la conférence Est qu'on retrouve chaque année plus ou moins au même endroit, qui sont les Indiana Pacers. Les Indiana Pacers qui ont fait un grand changement, c'est celui du côté du banc. Mais on en parlera d'ici quelques instants. D'abord, on va se poser la question d'actualité autour d'un certain Ben Simmons, évidemment. Et les Pacers font partie des équipes citées dans les rumeurs de transfert avec quelques pièces intéressantes. Je vais tourner la question autrement. Puis c'est pour toi, du coup, Madiane, cette fois-ci. Est-ce que c'est une bonne idée du côté des Pacers? Est-ce qu'ils doivent aller chercher Ben Simmons?
Ça dépend de ce que tu veux faire. Mais si on reste dans la constante des Pistons, d'aller tout le temps chercher un minimum de niveau, d'aller faire des choses intéressantes, etc., pour le futur, pour moi, la réponse est un grand oui, parce que tu sais qu'avec Ben Simmons, tu as un excellent défenseur. Clairement, il aurait pu prétendre à un titre de défenseur de l'année, il faut quand même se le rappeler. Ses playoffs ont entaché son image, etc., mais sa défense, elle est excellente et c'est un joueur très intelligent. Donc rien que défensivement, il élève le niveau de ton collectif défensivement, mais vraiment très fortement. Et ensuite, offensivement, il tient la balle, il organise le jeu. Dans un setting de saison régulière, il va te faire gagner beaucoup de matchs. Clairement, moi, j'avais été marqué un moment par la période Ben Simmons tout seul sans Joel Embiid. Il y avait quand même de sacrées perfs de sa part et ça jouait très bien. Donc moi, si tu me dis mon objectif c'est d'aller en playoff chaque année, Ben Simmons ça coche beaucoup 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 de cases et je trouve que dans le roster qu'ils ont, ça deviendrait finalement le meilleur joueur parce que il n'y a pas non plus d'énormes joueurs là-bas, donc ça pourrait, tu pourrais réussir plus ou moins à le combler en lui disant bah voilà, t'es notre gars, on compte sur toi, etc. Moi je trouve que ça coche pas mal de cases, donc je validerai dans cet esprit-là ce trade.
Je vais encore une fois modifier un peu la question pour toi Ben, parce que justement on entend ce que dit Madiane sur l'intérêt de retrouver Ben Simmons dans cet effectif des Pacers, mais les rumeurs autour de Ben Simmons font état d'une volonté des Sixers de récupérer beaucoup en échange, et notamment, bien sûr, des profils de shooters. Donc la question, ce serait dans quel état serait le reste de l'effectif des Pacers à l'arrivée de Ben Simmons? Est-ce que ça se justifie de se retrouver avec Ben Simmons aux Pacers sans leur shooter ou leur Malcolm Brogdon, Caris LeVert, je ne sais pas qui y aurait dans... Et donc Ben Simmons avec Miles Turner et Domantas Sabonis, est-ce que ça fait sens d'aller dans cette direction?
Les Pacers, ils font souvent des moves que NBA Twitter France va qualifier de bons coups, ou les coups malins. Et effectivement, ça, ce genre d'échange ne serait pas considéré comme un bon coup. C'est vrai qu'il faudrait lâcher beaucoup, et on sait qu'il y a une gestion de père de famille du côté d'Indiana qui est clairement assumée, où on tente des paris bien souvent sur des joueurs qui ont des... On en avait parlé, ça, à l'époque du trade de James Harden, où ils avaient récupéré Caris LeVert. Ils ont une approche qui vise à tenter des coups, par exemple, sur des joueurs qui ont subi des blessures. Caris LeVert en est un des exemples. Donc, ça serait handicaper ton effectif. Là où, et c'est une récurrente dans ce podcast, je ne suis pas d'accord avec Madiane. Je suis d'accord avec tout le développement, sauf que, non. Parce que c'est quoi le vrai problème des Pacers en ce moment? C'est d'être... de ne pas passer un tour de playoff. Et les problèmes de Ben Simmons se concrétisent en playoff. Pour moi, Ben Simmons, c'est un joueur qui doit être dans une équipe qui est dans le... Si tu le trades et si effectivement tu veux lui donner une part importante dans l'équipe où il arrive, il doit arriver dans une des 5 pires équipes de la conférence, que ce soit ouest, et il va réussir à l'élever vers le play-in, voire quelque chose d'autre, idéalement. Ce n'est pas le cas d'Indiana, qui est une équipe qui est proche play-in, playoff. Donc là où il y a un fit très intéressant avec un Miles Turner, moins avec un Sabonis, parce que Miles Turner est le pivot, je pense, qu'imaginait Madiane quand on parlait peut-être de Isaiah Stewart. Je pense pas que ça soit l'idée du siècle pour Indiana. C'est peut-être un potentiel superstar, mais si ton objectif c'est vraiment peut-être de passer l'étape suivante, ça ne sera pas avec Ben Simmons.
En fait, moi je voyais ça. Alors je suis d'accord avec ton désaccord. En fait, mais on n'a pas la même vision. Moi, je voyais dans une vision moyen-long terme, si j'ai envie d'assurer ça sur un plus long cours, parce que j'ai besoin d'un petit renouvellement et que je sens que bah il y a plus Oladipo, que bon bah Caris LeVert on sait pas trop encore son état, que c'est un pari mais que tu sais pas ce que ça va donner et que tu es quand même très borderline, et si tu as envie de sécuriser ton spot en playoff, Ben Simmons coche cette case de je sécurise ce spot et je le sécurise tant qu'il est là. Évidemment, après pour les playoffs, ça risque d'être très 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 compliqué. Mais pour moi, le débat n'est pas là. Si tu as envie de sécuriser le spot en playoff, essayer de choper Ben Simmons, ça me paraît une bonne idée.
Ah, je vais nuancer un peu dans mon avis à moi. Je pense qu'en termes de temporalité, des Pacers, tu n'en es pas encore à ça, comme tu dis, à te dire ah, à court terme, je suis mal. Tu as quand même, comme tu as dit, le pari LeVert, on n'a pas encore eu la réponse. Il va falloir le voir sur le terrain. Tu as un TJ Warren qui est bon. Et puis tu as Domantas Sabonis et Miles Turner. Bon, Miles Turner risque d'avoir des offres au fur et à mesure à une valeur qui augmente. Mais je pense qu'avec Domantas Sabonis, Brogdon, LeVert, Warren, bon, tu as un 5 qui t'assure à l'Est, a priori, une place au moins pour les 2-3. Enfin, ça risque de bouger, hein, comme tous les effectifs chaque année en NBA, mais admettons qu'il ne bouge pas du tout. Bon, sur les 2-3 prochaines saisons, c'est quand même un effectif qui peut prétendre en tout cas une place à cet endroit-là. Même si j'entends ce que tu dis, effectivement, la question se pose. C'est normal que les Pacers aient appelé pour Ben Simmons. Je pense que tout dépend forcément de la volonté des Sixers cette année. Mais justement, pour le moment, Ben Simmons, il ne bouge pas. Les Sixers demandent beaucoup trop à tout le monde. Du coup, on va se poser une deuxième question sur l'effectif en présence des Pacers, ou en tout cas l'équipe, puisque la deuxième question, elle est signée de toi, Ben, donc je vais la poser à Madiane pour commencer. À quel point ce changement de coach peut avoir une vraie influence, l'arrivée donc de Rick Carlisle du côté du banc des Pacers?
Ben, moi, j'ai toujours trouvé que les Pacers avaient su se montrer... patient malgré les tares qu'il y avait parfois, enfin qu'on notait notamment dans des settings playoffs vis-à-vis de certains coachs précédents. Moi je comprends difficilement pourquoi on fait tout de suite ce changement. Quelle est l'idée derrière ça? Et surtout, est-ce que finalement, il n'aurait pas mieux fallu laisser une deuxième saison? J'avoue que je suis un peu interloqué par le fait que ça change directement, sachant qu'il y en a d'autres que un certain Nate McMillan qui a fait un bon boulot, mais qui a montré des grosses limites, peut-être à un moment où ils auraient peut-être espéré un peu plus, avait montré des défauts terribles, et on l'avait laissé quand même tranquillement partir bien plus tard. Moi j'aurais laissé une deuxième saison, parce que c'était particulier l'an dernier, c'était pas non plus cataclysmique, il n'y avait pas Caris LeVert, il y a le gros trade au milieu de la saison, je trouve que Il n'y avait pas matière à s'impatienter. Mais j'avais dit pareil pour un certain Lloyd Pierce du côté d'Atlanta. Et finalement, j'ai eu tort. Son limogeage a été une excellente nouvelle pour la franchise. Mais moi, j'ai une tendance à vouloir rester patient vis-à-vis de certains coachs.
Très bien. Tu remarqueras l'habilité, Ben, de Manian et la mienne de ne pas citer le nom de l'ancien coach des Pacers.
C'est donc sur moi que ça
arrive. Effectivement. Parce que du coup, tu nous demandais si on ne surestimait pas, pour être précis, parce que j'ai tordu un peu la question, l'influence de ce fameux départ. Donc, je t'en prie, Ben.
Le départ de Nate Bjorgen.
J'ai beaucoup plus de facilité. Bien joué, bien joué.
Merci. En fait, sur le sportif, je suis d'accord avec Madiam, mais c'est juste que Nate Bjorgen, c'était Kim Jong-il, en fait, dans la gestion. C'est pour ça qu'en fait, il a tous les rapports qu'on a eu vis-à-vis du départ d'assistants qui sont très respectés, vis-à-vis de la gestion par rapport aux joueurs d'une autorité martiale, c'est ça qui a précipité sa perte. Moi, du coup, j'avais la sensation qu'on surestimait peut-être, même s'il y a un rapport, l'influence de la négativité hors terrain sur l'impact terrain. L'année dernière, les Pacers sont 14e attaque, 14e défense. Alors certes, leur défense était assez particulière. C'était une défense qui concédait très très peu de tirs à 3 points, mais qui était parfois un peu fébrile, en particularité quand il n'y avait pas Miles Turner dans la peinture. Un peu le problème avec Sabonis souvent. Je pense qu'ils vont être mieux coachés avec Rick Carlisle, mais je pense pas que le potentiel que l'on offre à ces Pacers-là, avec peut-être un effectif en meilleure santé, n'oublions pas que Warren, on n'a toujours pas de nouvelles au moment où on parle, certes, il y aura un meilleur coach, mais je ne pense pas que ça va lui offrir un push de 3 places, voire 2 à l'Est, en fait.
Ouais, je pense pas. Je pense pas que ce soit l'objectif non plus. Tu l'as dit, c'est vrai que la raison principale du changement de coach, c'était la perte d'influence sur le vestiaire. Et je pense que c'est ça l'idée d'aller chercher un Rick Carlisle qui a une image, une assise, voilà, qui fait que qu'il est respecté par la plupart des joueurs NBA dans cet effectif où tu peux avoir quelques têtes brûlées.
Moi, en fait, ça me dérange parce que dans ce qui était relaté sur les histoires du vestiaire des Pacers, ce qui était dit notamment, c'était qu'il était ouvert à la discussion, aux critiques, et qu'il ne semblait pas non plus être si fermé que ça et prêt à reconnaître certaines erreurs.
Et tu as lu sa déclat de presse, parce que c'est l'inverse,
moi, c'était l'article de ESPN sur le sujet que j'avais lu, et il avait été bien signalé qu'il semblait ouvert à cette critique. Et j'ai, alors peut-être que ça vient, peut-être qu'il a un très bon agent qui permet de rédiger certains contrats, mais je ne suis pas dans le secret du vestiaire. En tout cas, moi, ça m'étonne, et j'avoue que j'ai beaucoup de mal. Alors il y a des cas extrêmes, hein, j'ai pas défendu du côté des Cavs ce qui s'était passé avec Bélein. Je ne sais pas si je prononce très bien, mais là, c'était vraiment indéfendable le cas. Là, moi, je ne suis pas sûr que tous les torts soient de son côté, et sa saison, malgré une non-qualification au play-off, ils perdent face aux Wizards. Bah ouais, mais les circonstances, les trades, etc.
Ouais, mais
j'ai
peu
pas
importe,
trouvé
Madiane,
qu'il était mauvais.
Peu importe, Madiane, les circonstances, à qui est la faute, sur qui elle est à mettre. C'est que ça n'allait plus. Des deux côés, ils étaient à peu près d'accord et il fallait en changer. Donc, ils changent pour un coach qui semble plus fitté. Là, après, on aura la réponse d'ici quelques semaines, quelques mois peut-être, du côté des Pacers. Mais il faut qu'on avance parce qu'il nous reste encore des équipes. Je sais qu'on aime ce... Là, mais c'est bien, c'est un podcast où on a des avis des fois un peu différents. Donc, ça permet d'émettre différents points de vue.
Et en plus, il y a du lourd qui arrive, au moins 2 équipes sur 3.
Oui, parce que là, on a...
Ah, mais du coup, si on fait autant de minutes sur les équipes moins hype, là...
Mais non, c'est hype,
on va savoir ça tout de suite, parce que là, on va aller tout en haut de la hype, ou en tout cas des pronostics, avec nos amis de Brooklyn, ces fameux Nets qui sont parmi les favoris, bien sûr, de cette saison 2021-2022. Et la question posée par Tom, elle est pour toi, Ben, pour commencer. C'est bon, à la fin, quand on fera les comptes du côté des Nets, on aura combien de trophées individuel plus collectif? Alors, on peut exclure un Executive of the Year, Teammate of the Year, etc. On parle des trophées majeurs, évidemment.
tu n'aimes pas ces trophées-là?
Disons que leur impact n'est pas...
un seul, le titre, je pense. Alors, j'ai une autre théorie un petit peu fumeuse. Je pense qu'il pourrait peut-être avoir le MVP du All-Star Game, parce que on a Kyrie... Alors, Kyrie, bref, on va mettre une parenthèse, on ne va pas revenir dessus. Kevin Durant a toujours fait des grosses perfs All-Star Game, donc peut-être celui-là. Je ne vois pas de trophée individuel foncièrement. Je pense que l'effectif enlève la possibilité à Steve Nash d'avoir le coach de l'année. On partira du principe que c'était normal, mis à part performance inhumaine. MVP, peut-être KD, mais j'ai peur qu'il y ait un peu de load management qui ne joue pas tous les matchs. Défenseur de l'année, il n'y a personne. Sixième homme, j'y crois pas vraiment. Donc le titre... Et c'est tout, parce que de toute façon, collectivement, tu ne gagnes pas d'autre chose, en fait.
C'est déjà pas mal. Voilà.
Ouais, Madiane, est-ce que tu vois autre chose que... Enfin, quel est le titre pour toi qui a le plus de potentiel individuel, donc, le plus de potentiel d'arriver sur une étagère
C'est le MVP. Pourquoi? Parce qu'il pourrait se retrouver avec le meilleur bilan de la NBA selon comment ça se développe. Et donc, meilleur bilan, hein, une année sur laquelle le meilleur joueur de la Ligue ne se détache pas forcément. Donc, on regardera plus le bilan et on récompensera sûrement un Kevin Durant qui pourrait faire une très bonne saison. Mais pareil, load management, combien de matchs il va jouer. Et moi, en fait, j'ai plutôt l'impression que le scénario sera plutôt à des Nets, pas forcément tout en haut de leur conférence, parce que load management, qu'est-ce qui se passe avec Kyrie, etc. Enfin, que du coup, chacun loupe un peu sa petite pelletée de match histoire d'être en forme pour les playoffs et que du coup, il se retrouve pas tout en haut. C'est pour ça que pour moi, il est plus probable qu'il y ait un titre, qu'il n'y ait un titre de MVP, ce qui paraît incroyable. Mais dans ma tête, j'ai plus l'impression que le titre a plus de chances d'arriver.
Je vais rajouter une petite piécette. Alors, j'en ferai pas mon favori, mais pour Patty Mills sur le sixième homme de l'année, éventuellement, ça dépendra du nombre de matchs et de minutes que joue Kyrie.
Patty Mills peut
se retrouver à jouer beaucoup de minutes, mais suffisamment en tant que leader de second unit. Il y a mettre quelques points. Je ne mettrai pas mon PEL dessus, comme on dit, mais éventuellement, si on devait dégager un autre titre individuel, il serait là. Difficile de voir un rookie de l'année, un MIP. Ou un défenseur de l'année du côté des Nets, ça semble à peu près évident. Donc on va passer à la question d'après, qui est juste
la meilleure question de toutes les prévues. Je suis désolé.
Et qui est très modeste, puisqu'elle est signée d'un certain Benjamin qu'on salue évidemment, qui nous demande le scénario inverse finalement. Est-ce que si à la fin de la saison il n'y a aucun trophée, en tout cas il n'y a pas le trophée collectif du côté des Nets qui ne sont pas champions? Sans prendre en compte évidemment le cas blessure qu'on ne souhaite pas. Que s'est-il passé? Pourquoi, Madiane, les Nets ne seront pas champions NBA?
Alors, s'il n'y a pas de blessure, dans ce cas, LeBron James va discuter ou quiconque les battra discutera très 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 fort sur l'une des perfs all-time d'une équipe, parce que battre ces mecs là sans blessure va falloir s'accrocher. On en a vu des esquisses l'an dernier, enfin clairement ne serait-ce que les deux, Kevin Durant et Kyrie Irving, faisaient la chanson aux Bucks, hein. C'était terrible, hein. Ils avaient vraiment difficilement des solutions. Là leur intersaison est folle. Harden, c'est pas quelqu'un qui se blesse souvent, sauf un truc. C'est sur Kyrie, c'est-à-dire qu'ils perdent Kyrie et dans ce cas, après, ils tombent sur une énorme équipe. Mais sans blessure, j'ai vraiment du mal à le voir. Et si genre typiquement, un LeBron James arrive à les battre en finale avec les Lakers, vous vous rendez bien compte que la sphère NBA explose et qu'il y en a pas mal qui voudront relancer encore un débat éternel qui n'a pas lieu d'être.
Merci pour cette conclusion, Madiane. Je te salue de ne pas avoir déclenché les réponses. Et du coup, Ben, tu vas pouvoir répondre à ta propre question et finalement un peu la question qu'a posée Madiane. C'est est-ce que si les Nets n'ont pas gagné le titre, c'est qu'en face, il y a eu une équipe, une performance inhumaine. Est-ce que c'est les Nets qui ne gagnent pas ou est-ce que c'est les Nets qui perdent finalement? Tu vois la nuance que je veux mettre.
En fait, je vous ai posé une question, je n'ai pas de réponse. Franchement, s'il n'y a pas de blessure, je ne vois pas pourquoi ils ne gagneraient pas. Ouais, j'ai non. En fait, non.
Non, ils peuvent pas perdre sans blessure.
On a parlé des Lakers dans l'autre podcast, et là où autant je rejoins peut-être pas Elias sur des considérations de saison régulière et de difficultés pour les Lakers. En playoff, ça devient trop compliqué. Donc non, si tout va bien, je vois pas comment le titre peut leur échapper. Non.
Ça me va. Je n'ai rien à rajouter à ces phrases-là. C'est vrai que sur le papier, quand même. Les Nets devraient avoir la cote la plus faible pour remporter le titre NBA. Rendez-vous pour faire les comptes à la fin avec, bon, évidemment, les autres facteurs qu'on a décidé de passer aujourd'hui. Le fameux facteur Kyrie qui est quand même au centre, qui sera au centre de au moins ce début de saison du côté des Nets. Et donc, redescendons à une équipe moins hype pour faire plaisir, pour s'écharper un peu entre nous.
Mouillez-vous la nuque avant.
Repartons du côté de la Floride avec une question un peu provoque. Tiens, Ben, du coup, c'est pour toi cette fois-ci. On repart dans l'autre sens. Est-ce qu'on va regarder plus de 5 matchs du Orlando Magic, Ben?
La manière dont je l'ai écrite et provoque, c'est plutôt pour se poser la question, est-ce que c'est pas une des équipes dont on va le regarder le moins de matchs, ce Magic-là? Parce que moi, souvent, ma saison, j'ai l'habitude de dire, même si je ne l'ai jamais dit dans l'émission, je vais la découper en 3 parties. Début de saison, je vais essayer de regarder les équipes qui ont beaucoup bougé. Vous pouvez penser aux Bulls cette année, ou les équipes où il y a, je ne vais pas dire une hype, mais où il y a de la progression en interne, peut-être des choses comme ça, qui amènent peut-être de l'espoir. Mi-saison, on a tendance à regarder les équipes qui surperforment ou sous-performent de manière assez extrême les prédictions de début de saison. Et fin de saison, on a tendance à regarder les équipes qui vont jouer les premiers rôles en play-off. Je trouve que le Magic ne rentre dans aucun de ces trois tableaux-là. C'est un jeune effectif. Alors, bien sûr, il faudra regarder au niveau de la progression des jeunes joueurs. C'est ça l'intérêt. Mais honnêtement, au-delà de la provocation de la question, je pense que ça sera, et ici on est honnête, on le dit, ça sera une des équipes que je vais le moins regarder, je pense, cette saison.
Madiane, on sait que tu es connu chez nous, en tout cas chez Dunkebdo, pour aimer les...
Non mais lui, il va nous dire que c'est l'équipe qui va plus...
Voilà, alors... pour aimer les matchs qui ont moins de hype, est-ce que tu es hypé, je ne sais pas, par Jalen Suggs, peut-être ?
Non, en fait, ça enfin, là, je vais être très dur, hein. Ça ne m'intéresse pas. Genre, je préfère regarder les Pistons, largement. En fait, moi, je n'ai pas de curiosité en fait, pour cette équipe. Et même pas de curiosité malsaine, c'est... Ok, bah cool, bah faites votre saison les gars. Par contre, combien de matchs j'en regarderai, ça dépendra combien il y aura de matchs à la première heure le soir où j'ai rien d'autre à faire. C'est tout bête, hein. Si c'est le premier match que j'ai rien d'autre à faire, il se peut que je regarde des matchs. Si c'est pas ça, si c'est pas ce scénario-là, je vois pas. Si je suis pas, si je suis pas couché et que c'est le premier match, je vais le regarder. Et encore, hein, parce que dès qu'il y a le deuxième qui commence, je vais très vite switcher à mon avis. En vrai, il y a pas de, tu vois, je suis pas sûr que Détroit en gagne énormément, mais il y a un côté où t'es intéressé de savoir, tiens, bah, Killian Hayes, deuxième saison, la première a été difficile avec sa blessure, etc. Tiens, bah, Cadet, qu'est-ce que ça va donner ? Enfin, il y a, t'as envie de regarder, tu vois. Et le Magic, vous avez vraiment envie de regarder. L'objet de la deuxième question.
Ouais, il faut quelqu'un qui...
Je vais les défendre. Alors déjà, vu, la question était à 5, ils jouent 4 fois les Bulls, donc moi je les verrai au moins 4 fois. ensuite, il y a aussi un joueur que j'aime beaucoup, je ne l'ai jamais caché dans le podcast, qui était chez nous et qui se retrouve au Magic, qui s'appelle Wendell Carter Jr. Et donc, j'ai envie de voir comment ça va se passer.
Ah, mais là, c'est plus de l'amour à ce niveau-là, c'est de la démence.
Non, mais c'est des joueurs, c'est comme souvent quand il y a un jeune joueur qui est dans ton équipe et que tu y places quelques espoirs, tu as envie de savoir comment ça va évoluer, notamment avec le changement de contexte. C'est aussi le cas pour un Lauri Markkanen, par exemple, où je vais un peu regarder ce qui se passe. Alors, peut-être pas religieusement de quoi regarder tous les matchs du Magic, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais si l'opposition me semble intéressante, peut-être que je resterai un peu dessus. Ensuite, voilà, ils ont quand même drafté top 4. Ça peut être intéressant au fur et à mesure de la saison. Et puis, il y a toujours cet éternel Markel Fultz que moi j'aime beaucoup, mais qui malheureusement on semble ne pas en voir le bout.
Il aime les parias en fait, Adrien.
Un peu.
Je vais le dire. Hein. Je pense que ça s'entend parfois quand je reparle. Enfin, j'en ai parfois un peu d'émotion. C'est Markel Fultz. Ça me fait trop mal, encore une fois.
Comme à beaucoup de monde.
Ça me fait trop mal et j'adore ce joueur. Mais là sans déconner, enfin, le roster...
Oui, non, mais ce n'est pas l'équipe la plus hype. C'est pour donner un son de cloche, pour donner un peu d'espoir. Il y a sûrement des supporters du Magic qui nous écoutent.
Le joueur le plus intéressant à regarder, c'est peut-être Jonathan Isaac de retour de blessure. Et qu'est-ce que ça peut faire ?
Il y a la deuxième question. Il y a la deuxième question. Je vais vous lancer là-dessus parce que celle-là, elle peut amener des gens à regarder parce que
les fans du Magic nous ont déjà quittés. Adrien, mais vas-y.
Mais c'est pas grave. On va le faire quand même. On va
c'est
parler
encore
de ce poste
pire
de
que quand Elfrid Payton était meneur titulaire.
Parce qu'il n'y a pas que Wendell Carter. Je décide d'ignorer cette remarque. Il n'y a pas que Wendell Carter au poste de pivot. Il y a un autre joueur qui avait aussi beaucoup d'espoir de par son profil pendant que Ben est en train de décéder pour ceux qui nous voient sur YouTube. À l'évocation d'Elfrid Payton. Il y a un autre pivot qui, jeune, on plaçait beaucoup d'espoir sur lui de par son profil, mais qui a aussi un peu déçu. Mais certains ont gardé quand même un peu d'espoir. Alors, qui va gagner la guerre entre Wendell Carter et Mobamba ? Alors, je vais commencer par toi, Madiane, le temps que Ben se remette de ses émotions.
J'ai plus d'espoir sur Wendell Carter Jr. que sur Mobamba.
Merci à toi.
Waouh ! Putain, celle-là, faut la sortir. Parce que Mobamba, c'est déjà visiblement, c'est son hygiène de vie qui semble avoir parfois posé question du côté du staff, souvent blessé. Je trouve que sa taille, enfin la façon dont il est, c'est pas forcément très très rassurant. Il fait 2m13, donc voilà, c'est pas extrêmement rassurant. Ses saisons sont passable, il joue pas beaucoup, à chaque fois blessé. Je me dirais que c'est Wendell Carter qui pourrait avoir un avantage et Wendell Carter Jr. a montré plus de choses en NBA que Mo Bamba. Mais franchement, le choix...
Je vois.
J'aurais préféré parler de Jonathan Isaac, clairement.
Oui, ouais, bah, j'imagine. Mais c'est quand même la question que s'est posée. Mais est-ce que Ben, tu te sens en état de
Vas-y, Adrien, vas-y, mets-moi dans la sauce. Je peux.
Bah, vas-y, je t'en prie. Mo Bamba ou Wendell Carter?
C'est compliqué parce que deux intérieurs... Alors, je suis d'accord, Wendell Carter a plus prouvé, mais c'est compliqué parce qu'on a deux jeunes intérieurs où tu n'as pas encore toutes les certitudes et qui sont draftés la même année. Et donc, du coup, tu dois les payer au même moment qui est l'année prochaine, enfin, fin de cette saison. C'est compliqué. On a déjà vu sur la pré-saison, ils sont 3 et 4e au niveau des minutes. Je pense quand même, et là, ce n'est pas la logique la plus folle du monde, Mo Bamba et un choix maison, et c'est celui sur lequel tu as le moins d'informations, je pense qu'il jouera plus parce que je peux imaginer qu'en fin de saison, on lui donne des minutes pour vraiment savoir ce qu'est Mo Bamba. Effectivement, Madian a dit, on a peu d'infos. C'est aussi parce qu'il avait Vucevic, il avait un All-Star devant lui. Il avait ensuite Cambridge qui était plus adapté à une équipe qui visait les playoffs. Là, je pense qu'on va essayer de voir ce qu'on a en Mo Bamba. Et surtout, on le sait, c'est toujours très difficile pour une équipe de ne pas donner un deuxième contrat, sauf quand on est les Knicks. Donc, ils vont essayer d'être sûrs de ce qu'ils ont dans Mo Bamba. Là où Wendell Carter, il a déjà été échangé. On sait déjà qu'il n'y a pas une attente folle dans la Ligue autour de lui.
Je pense que ton axe sur l'intérêt de faire jouer l'un ou l'autre pour le front office est intéressant, mais je le vois dans l'autre sens, moi. C'est-à-dire que tu viens de trade en milieu de saison dernière, de tourner la page Vucevic, Evan Fournier, etc., en récupérant Wendell Carter. Donc tu as un intérêt à justifier ton choix en disant « c'était la meilleure offre » en ayant le meilleur joueur, donc en le mettant en avant. Et c'est sur la fin de saison, en tout cas quand il est arrivé, bon là dans les premiers mois c'est un peu normal, mais c'est Wendell Carter qui jouait majoritairement. Et il y a aussi Mo Bamba, il y a une chose qui me pose problème, c'est-à-dire que moi le profil, je suis un peu comme tout le monde. À la base, je pense qu'il a en main plein de choses très intéressantes. Le problème c'est quand il joue, alors des bouts de minutes par-ci par-là, des bouts de match, il est pas bon. C'est-à-dire qu'il fait n'importe quoi. Il joue pour lui, il essaye de trop en faire. Il n'est pas assez mature. Alors peut-être que tu peux dire justement, comme tu dis, que tu vas continuer de le développer parce que c'est ton choix maison et c'est ta responsabilité quelque part. Tu as envie de le voir éclore parce qu'il en a le potentiel. Voilà, la question se pose sur où tu places tes billes. Après, comme tu l'as dit, le dilemme va se poser au même moment. Donc ce sera au meilleur des deux de s'imposer hein, finalement. Mais je pense qu'on ne va pas non plus s'étendre des jours et des jours sur le Magic, surtout qu'on arrive déjà à une heure de podcast.
Non, parce qu'il se peut qu'au cas de deux, nous soyons en NBA à moyen terme.
Oh, quand même.
La dernière chose, peut-être juste, je vais vérifier pendant qu'on enregistre, c'est le deuxième. Le régime est arrivé en 2017, John Amon, c'est son deuxième choix. 2018, Mo Bamba. Donc, tu sais, les premiers choix, c'est un petit peu c'est très précieux. Donc, peut-être qu'il y aura cette volonté-là.
Là, peut-être cet aspect sentimental. En tout cas, voilà. Bon, on aura peut-être plus d'intérêt au fur et à mesure de la saison. Peut-être que le Magic surprendra ses fans, on leur souhaite en tout cas, malgré...
Peut-être que ça jouera bien. Ils perdront, mais ça jouera bien.
Peut-être. En tout cas, c'est vrai qu'a priori, on ne devrait pas les retrouver dans la course au play-in. Mais oui, on a passé l'heure d'enregistrement. Il nous reste tout de même une équipe pour conclure ce début de preview à l'Est. Une équipe qui fait parler, qui a toujours fait parler d'ailleurs, puisqu'on parle des New York Knicks. Donc... l'équipe de la grosse pomme qui a fait quelques mouvements après donc une saison où ils ont surpris pas mal de monde en finissant quand même quatrième en étant donc présent en play-off, en étant très bon pendant la saison régulière. Ils ont continué à faire des moves cet été avec notamment l'arrivée d'Evan Fournier et d'un meneur de jeu, un certain Kemba Walker. Et la première question, elle est pour toi Ben. Parce qu'on sait que le coach des Knicks, Thibodeau, aime beaucoup ses meneurs, qu'il arrive toujours à bien les mettre en avant. Est-ce que c'est l'année de la rédemption ? Est-ce que Kemba Walker sera All-Star cette année sous Thibodeau ?
Non.
Merci, ouais. Ben.
Question sûre. en fait, le mariage Kemba Walker, à cause de ses origines new-yorkaises, on le comprend. On est sur un joueur qui jouait pas les back-to-back parce que il avait des problèmes au genou. On est sur un joueur qui a vraiment des pépins physiques. Je suis très, très pessimiste sur le mariage avec Tom Thibodeau et même sur le talent. Alors, l'arrière à l'Est, c'est pas l'endroit le plus fourni, mais je pense que Kemba Walker n'a plus ce niveau pour prétendre à un All-Star. Donc, je dirais non.
Même chose, Madiane, est-ce que on sait que le régime Thibodeau est demandant en plus physiquement. Est-ce que Kemba Walker a encore les cannes?
Non, il les a pas. Son genou gauche, on sait de source sûre que c'est flingué. Même le roster du côté des Celtics, il y a eu beaucoup de fois où il disait qu'il commençait un peu à s'inquiéter alors qu'il était encore un joueur des Celtics. Non, clairement, enfin, son genou gauche, on sait, il est flingué. On parle même du fait que visiblement, il jouerait sous infiltration, ce qui n'est jamais une bonne chose, hein, clairement. T'inhibes la douleur, mais t'enlèves pas le problème. Donc, moi, je suis pessimiste parce qu'en plus, c'est un peu romantique. C'est New York. Les joueurs un peu romantiques avec New York, ça s'est pas forcément très, très bien passé. Ça me fait un peu peur. Mais je me dis que, quand même, considérant qu'il était meneur titulaire l'an dernier, c'est pas forcément là où il y a un pari. Déraisonnable et oui, j'aurais préféré si possible un autre joueur, mais il a fini chez toi et je pense que tu en es très heureux,
tout à fait,
mon cher Adrien. Donc voilà, non, pour moi, Kemba Walker, ça va être très difficile et ça va poser des questions sur les rotations parce que c'est un joueur qui peut pas forcément jouer tous les matchs. Le rythme de Thibodeau est exigeant et c'est peut-être ce qui m'inquiète un peu. J'ai peur que ça manque à terme un peu de playmaking parce que notre ami Payton a beaucoup de défauts, mais il tient une balle.
Il tient une balle. Mais c'est vrai que l'angle de la rotation, moi, c'est comme ça que j'ai pris cette question. Du côté du poste de meneur, en fait, il y a plusieurs joueurs que Thibodeau aime bien qui vont prendre des minutes sur le poste 1. Donc, ça va permettre de compenser si Kemba Walker n'est pas en jambes, mais aussi de baisser donc, ses minutes jouées, ses games jouées peut-être aussi, et donc son potentiel. Sa potentielle place du côté de All-Star. Je parle bien sûr de Derrick Rose, grand Derrick Rose, et d'Emmanuel Quickly aussi, qui a une certaine cote du côté des Knicks et qui prend des minutes au poste 1. Donc, a priori, peu de chances de revoir Kemba. Mais si on lui souhaite d'être à son meilleur niveau, mais de le voir All-Star, ça me semble quand même un peu présomptueux. Et la dernière question, quand même, qui est, je pense, la question la plus écharpante du côté de Kebdo, qui nous a fait poser beaucoup de questions l'année dernière, c'est ce fameux coach Thibodeau.
Ah. Il précise pas, c'est lui qui l'a posé.
Tout à fait. Je dis juste. Et oui, parce que Thibodeau, qui est quand même cher aux fans des Bulls dont je fais partie, mais qui a réussi donc avec son fameux effet Thibodeau, difficilement explicable parfois, à ramener les Knicks dans le top 4 de la conférence Est. On en avait parlé dans le podcast durant la saison. On pensait que ça allait finir par baisser, notamment leurs énormes performances défensives, qui semblaient être dues plus à
un manque de réussite,
une forme de chance. Une forme de réussite, voilà, ou de manque de réussite des adversaires qu'a leur qualité défensive. Finalement, ils ont quand même fini top 4. Bon, il y a eu quand même un coup d'arrêt assez fort en play-off. Est-ce que cette année, ils vont pouvoir réitérer cette performance avec les quelques ajouts, ou est-ce que finalement, c'était pas une anomalie et Thibodeau est suffisamment bon pour tirer de cet effectif des Knicks encore une bonne défense? Madiane, je te pose la question en premier lieu.
Je pense que top 4, ça va être très difficile. Il y a quand même le retour de beaucoup de gros bras. Mais, je nuance, le niveau plancher de cette équipe, il sera pas nul. Ok, Randall fait pas de bons playoffs, mais pendant toute la saison régulière, il a été extrêmement bon. Un Evan Fournier, à qui on va demander, je pense, au vu des paris qui ont été pris sur le poste de meneur, d'avoir la balle. C'est un très bon starter NBA et il faut pas sous-estimer ce joueur. Clairement, c'est un très bon joueur NBA. Évidemment, il est pas All-Star, mais je trouve que voilà. On a quand même eu des bonnes re-signatures aussi. Moi, je trouve que c'est un roster qui jouera plus border du coup playoff. Mais sauf accident industriel, je sais qu'ils joueront au minimum un à deux matchs de play-in minimum et plus si affinité. J'ai du mal à les voir en dessous de ça.
Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense, toi, Ben, de ces Knicks? Est-ce que finalement, leur problème numéro un, c'est pas que les autres équipes de l'Est se sont améliorées ou ont retrouvé un niveau supérieur plus que ce que les Knicks ont pu proposer?
Il y a une amélioration, je suis d'accord. Puis, ces questions, c'est un peu difficile d'y répondre parce que ils sont. L'année dernière, c'est une anomalie. Je reste persuadé que c'est une anomalie. Mais l'effectif est meilleur Kemba Walker, Evan Fournier, l'effectif est meilleur cette année en fait. Donc je pense qu'ils vont naturellement prendre un petit coup au niveau du classement qui va être amplifié par des équipes meilleures, mais ils devraient, je rejoins Madian, au bout de la plus d'une heure de podcast, ils devraient, enfin, je pense, arriver à accrocher le play-in au minimum. Alors les méthodes de Tim Boddo, on en est fan ou pas, mais le fait est que sur des saisons régulières, ça permet de tirer le mieux, le plus que tu as de l'effectif, et peut-être que ça va pas être positif pour un Kemba Walker un peu fragile, mais je pense que l'effectif se tiendra, donc on devrait les voir jouer à minima le play-in, je pense, parce que vous vous souvenez des 1 heure de podcast qu'on vient de faire, là, il y a eu des équipes quand même un petit peu en difficulté dont on a parlé.
Probablement plus en difficulté bien sûr que Noir, mais je te rejoins Thibodeau. Alors l'effet Thibodeau sur on essaye d'en trouver sur des statistiques etc, parfois c'est peut-être un peu exagéré, je suis d'accord. Enfin, de toute façon on faisait à peu près tous le même constat, hein. Ça semble être une anomalie cette saison dernière, on verra si on a raison ou tort, mais en tout cas Thibodeau tire toujours le maximum, je sais pas, mais en tout cas arrive à faire de ses équipes des équipes de saison régulière qui gagnent un maximum de matchs. Alors, avec des effets secondaires plus ou moins importants sur certains joueurs, mais en l'occurrence, effectivement, je pense quand même qu'on devrait les revoir, en tout cas au moins à la lutte, pour la deuxième partie de tableau d'accès aux playoffs du côté de l'Est. Et enfin, du coup, on est arrivé au bout de notre première partie, où on a déjà...
Wow, la façon dont tu l'as dit, j'ai cru qu'il y avait une autre équipe que je n'avais pas vue.
Non, tout va bien, puis on a bien avancé. Il y en aura plus la semaine prochaine, enfin dans le prochain podcast, dans la prochaine preview, puisqu'on a fait 7 équipes à l'Est et il en reste 8. Donc ce sera d'ici quelques jours, bien sûr, sur toutes les plateformes de podcast, comme d'habitude. Hein, vous retrouvez Dunk Hebdo, on vous remercie de nous suivre, toujours plus nombreux. Même chose, on est avec vous sur Twitter. Sur les réseaux sociaux, on échange avec vous, avec nos magnifiques community managers qui font toujours un très joli travail. Et je vous conseille de suivre aussi sur les réseaux sociaux pour participer à certaines choses, n'est-ce pas Ben ?
Vous êtes resté jusqu'au bout. On a parlé du Magic. Vous devez donc avoir l'exclu international. On va vous faire gagner un maillot. Allez, on a parlé de beaucoup d'équipes en difficulté. On va vous faire gagner un maillot des Nets. Donc... il faudra suivre Twitter, il faudra retweeter, follower, si ce n'est pas fait. Franchement, si ce n'est pas fait, c'est de la mauvaise volonté, ce qu'on dit à chaque épisode. Donc, retweeter, follower Dunk Hebdo pour gagner un maillot des Nets dans les prochains jours.
Exactement. Donc voilà, on va continuer de vous faire de jolis cadeaux grâce à ce fameux partenaire avec la NBA. On vous rappelle aussi de cliquer sur le lien du League Pass. Si vous ne l'avez pas encore pris, abonnez-vous via notre lien. Ça nous aidera beaucoup et on vous remercie évidemment de votre fidélité. On se donne rendez-vous donc, comme je le disais, d'ici quelques jours pour la suite de la conférence Est avec d'autres équipes. On va encore une nouvelle fois peut-être s'écharper. Réponse d'ici quelques jours.
Autour pour le moment, vous êtes sûr.
Je te laisse la responsabilité de cette réflexion, Madiane. En tout cas, on se retrouve d'ici quelques jours. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, les gars.
Merci à toi.
Merci, Adrien.
Et puis à la prochaine.
Salut.
Salut.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.